Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. S'ouvrir sur le monde.
Vivre les différences.
Voir.
Sentir. Toucher. Entendre.
Regarde ailleurs, l'émission radio.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
L'histoire du Cambodge est l'une des plus touchantes que j'ai pu voir lors de mes voyages. Ce pays, au passé tragique, se relève de ses cendres. Dans la première partie de l'émission, je vous emmène à la rencontre de Thuy, un Cambodgien devenu Khmer Rouge à l'arrivée de Pol Pot au pouvoir. Thuy a vécu dans des camps, a été obligé d'exécuter les ordres qu'on lui donnait, battre et tuer pour pouvoir survivre. Thuy a accepté de partager avec nous un bout de son histoire tragique.
Face à un Cambodgien, face à un Khmer, qui parle parfaitement la langue française. C'est peut-être la première question, comment est-ce que tu en es venu à parler aussi bien, à t'exprimer aussi bien dans cette langue ?
Parce que j'ai un peu séjourné en France, en fait. Je suis arrivé en France en 88, parrainé par une famille française. C'est juste après les événements de ce qui s'est passé au Cambodge. Et donc j'étais parrainé par cette famille, puis j'ai été aussi éduqué à la française. Et je suis resté jusqu'à 2001.
De 88 à 2001, c'est ça ? Donc voilà. T'as passé plusieurs années en...
Voilà, je suis resté plusieurs années là-bas, en fait. Okay.
Comment est-ce qu'on en vient à être parrainé par une famille française ? Comment ça s'est passé ?
En fait, mes parents, à l'époque... mon père avait un cabinet de chirurgien. Il est chirurgien. Ils sont à la retraite maintenant. Et ma mère était journaliste. Ils ont abandonné tous les deux leur cabinet pour aller aider le Cambodge à ce moment-là, dans les camps de réfugiés de Khao Yai. Et c'est là qu'ils m'ont rencontré. Et j'ai travaillé après pour eux. J'étais déjà grand à l'époque. Et à un moment donné, ils m'ont fait la surprise de me demandant si je voulais aller en France avec eux. Et puis, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont préparé tous les papiers. Ils ont fait tout le nécessaire pour que je puisse partir avec eux en France. Et puis voilà, je me suis retrouvé en France.
Pendant presque 12 ans alors.
Voilà, 12-15 ans, oui. Mais je ne suis pas que resté en France en fait. J'ai beaucoup voyagé et revenu, reparti. Voilà.
Avant, je te demandais quel âge tu as. Donc je te demandais à quel âge est-ce que tu es arrivé en France. Et c'est là où tu me disais, il y a deux âges différents.
Oui, il y a effectivement deux âges différents, si tu veux. Je ne sais pas tellement quand je suis né, en fait, parce que j'ai perdu trace de mon enfance, de ma famille, en fait. Et donc, il paraît que je suis né en 68, mais quand je suis arrivé en France, mes parents ont déclaré que je suis né en 75 pour que je puisse reprendre les études. Donc, ils ont changé mon âge et ils ont fait parler le docteur, les médecins par rapport à leur dentition, etc. Et donc, ils ont déclaré que je suis né en 75 pour pouvoir reprendre mes études. Mais au fait, j'ai découvert il y a peut-être une dizaine d'années que je suis facilement né en 68. Voilà.
Tu as l'air super jeune.
Ouais, mais j'ai des cheveux blancs, tu vois, regarde.
Oui, donc tu es né en 68, ici au Cambodge, à Siem Reap déjà.
Aucune idée. J'en ai strictement aucune idée. Je ne sais même pas où je suis né. Apparemment, je viens de Daou. C'est une banlieue de Batamang. Et voilà, c'est tout ce que je sais. J'ai retrouvé il y a très longtemps un homme qui connaissait ma famille. C'est con parce que j'étais comme toi. J'ai pris le micro. Je l'ai interviewé aussi. Et il s'avère que dans un incendie, j'ai perdu toute trace de ce micro. Et donc, du coup... cette personne est décédée aujourd'hui, donc je ne peux même plus réécouter et retrouver encore mes traces, donc c'est assez difficile. Mais d'après ce que j'en sais, c'est que je suis né apparemment à Snau en 68. Ça correspondait à ce qu'il disait. En fait, cette personne, c'était le majordome de la maison.
C'est cette personne que tu as rencontrée avec un micro qui avait connu ta famille, parce que toi, tu n'as plus de souvenirs de ta famille.
En fait, le seul souvenir que j'ai, c'est que je pense que je devais avoir 6 ou 7 ans. À l'époque, des gens sont venus. Les seules images que j'ai eues, c'est que les gens sont venus et puis ils sont partis avec mes parents. Et mes parents nous ont simplement dit qu'ils reviendront demain. Et puis voilà, c'est tout ce que je me souviens.
Et là, on est, donc, on parle bien de Pol Pot, hein, c'est l'arrivée voilà, c'est... de Pol Pot sur Phnom Penh en 75, hein, si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça?
Voilà, en 75, l'arrivée de Pol Pot sur Phnom Penh. Mais c'était bien avant aussi, il y avait des mouvements beaucoup bien avant. Enfin, c'est après coup qu'on s'aperçoit que c'était bien avant, le mouvement était bien avant. Et ça commençait déjà en 68. Donc voilà. Mais c'est vrai que là, en fait, l'idée de Pol Pot, c'était d'éliminer tout ce qui est intellectuel en les accusant de traître envers le gouvernement. En les accusant d'espionnage, etc. Et donc, du coup, bah, mon père, je pense qu'il était dans l'armée à l'époque, il était sûrement officier. Ma mère était sûrement aussi d'une classe un peu plus, au moins bourgeoise, si tu veux. Donc, et c'était les premiers à être, à venir les récupérer. Donc, je pense qu'à l'époque, s'ils avaient un majordome à la maison, c'est qu'ils étaient déjà assez riches, ils étaient déjà bourges, enfin, d'une société assez haute, quoi, en fait.
Mais ça, à l'âge de 7 ans, on a quand même des souvenirs. Tu te souviens de ton lieu de naissance, au lieu d'habitation, non?
Oui, mais du nom en lui-même, non, mais je me souviens des arbres, je me souviens des prairies, je me souviens d'une grande maison où on était tous ensemble, des branches d'oranges qui rentraient dans les fenêtres, tu vois, donc, oui, je me souviens de tout ça, mais je me souviens pas de la ville en lui-même où j'étais vraiment, et puis je me souviens pas non plus de tout en détail, en fait.
Mais t'étais à la campagne, hein, tu étais voilà, quelque part en campagne.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs, l'émission radio.
À travers ton regard, je me découvre.
Regarde ailleurs sur le chemin des différences.
L'histoire est assez méconnue en France, s'y intéresse pas mal d'historiens, mais finalement ce qui s'est passé ici au Cambodge, on l'apprend pas dans les livres d'histoire français. Je sais pas si tu as eu l'occasion, bah si, tu as fréquenté les bancs de l'école aussi en France, mais à aucun moment on parle vraiment de l'histoire du Cambodge.
Non, effectivement on parle pas de l'histoire du Cambodge, et puis ça m'a un peu traumatisé quand j'étais en France, parce que la France m'a ouvert l'éducation en fait, et j'ai pu ouvrir une porte de la culture d'un autre monde qui n'était pas le mien à l'époque, et j'ai pu faire la comparaison de l'enfant que j'étais avec d'autres enfants, et j'ai pu voir un peu la différence de ce que j'ai vécu, et c'est là que j'ai réalisé vraiment ce que vraiment j'ai vécu au fait, et ce que j'ai vécu est complètement différent d'un, entre guillemets, un enfant normal, si tu veux.
Un enfant en Europe, en tout cas.
Enfin, en Europe, oui. Donc, quand ils sont venus chercher les parents, j'étais avec mon frère et ma sœur, qui sont décédés après, qu'on s'est séparés. Enfin, j'ai vu mon frère mourir, ma sœur, je ne l'ai jamais vu mourir. Enfin, je ne l'ai jamais vu, en fait, plus jamais vu. Mais il paraît qu'elle est décédée aussi.
Parce que là, quand on vient chercher tes parents, tu restes encore avec ton frère et ta sœur. Vous êtes tous les trois. Ou est-ce que vous êtes aussi emmenés quelque part?
Pour l'instant, on n'est que tous les trois, en fait. Et on était avec d'autres personnes, peut-être mon oncle. Je me souviens pas pratiquement plus. Je sais qu'on avait un homme qui est avec nous, qui nous gardait. Mais qui? Je me souviens plus, en fait. Voilà. Et après, cet homme s'est séparé, on s'est séparé, et moi, je me suis retrouvé à cette époque, dans l'endoctrine, c'est-à-dire les enfants, on emmenait les enfants dans des spéciales places, en fait, et puis on formait des petits enfants à tenir les armes, à haïr, à détester, etc. Et donc, je me suis retrouvé justement dans ces clans-là. Et voilà.
Avec tes frères et sœurs à ce moment-là ou non?
Non, déjà... non, plus. Je me suis séparé de mes frères et sœurs.
On nous a juste dit que les frères et sœurs, c'était l'ennemi public, que les parents, il ne fallait pas y suivre, que tout ce qu'il fallait faire, c'était de suivre l'encart, et voilà.
Donc l'encart, c'est un mot voilà, que tu utilises, qui veut dire, je crois, l'association, c'est ça ? Voilà, parle-moi, qu'est-ce qu'on entend par l'encart ?
Non, j'en sais rien du tout, mais tout ce que je sais, c'est de l'association, donc on doit suivre, et que c'est un mouvement, et qu'on doit suivre, et qu'on ne doit pas les trahir. C'est, voilà, je pense que c'était ça à l'époque.
Mais quand on est enfant, donc là tu as quoi, t'as 7, 8, 9 ans, quelque chose comme ça, on comprend pas ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi, on se rend compte que c'est pas normal comme situation, ou est-ce que vu que tout le monde vit la même chose, on pense que c'est normal, ou comment est-ce qu'on vit ça intérieurement ?
Intérieurement, rien du tout, en fait. En fait, ce qui se passe, ce que j'ai ressenti, c'est bon, la perte, le fait de ne pas voir mes parents, le fait de ne pas avoir ma famille, ça c'est normal que c'était une tristesse. Mais de là à réagir sur les opinions politiques, là je n'ai strictement aucune idée. Tout ce que je savais, c'était qu'on m'a donné à manger lorsqu'on m'a demandé de faire quelque chose. Et donc toute ma vie, ça a toujours été avec la nourriture, si tu veux. On te donnait à manger quand tu faisais les bonnes choses. C'est-à-dire que, par exemple, je te donne un exemple. Je me souviens par exemple de garder une quarantaine d'hommes attachés et je devais signaler s'il y avait quelqu'un qui bougeait, si tu veux. Pour te dire la vérité, je le faisais automatiquement. Puis quand je le faisais, d'autres personnes venaient pour les remettre en place, pour les taper, etc. Mais je le faisais parce qu'on me donnait à manger. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Oui. C'était assez difficile dans cette situation. Est-ce que je m'en veux aujourd'hui ? C'est la question que je me pose toujours éternellement. Est-ce que je me dis, en étant enfant à cette époque, endoctriné, est-ce que je m'en veux ? Pour dire la vérité, je ne m'en veux pas, en fait. Parce que je ne sais pas ce que toi, tu aurais fait, ce que d'autres personnes auraient fait. Mais ce que j'ai fait, c'est une façon pour moi de survivre. Si je suis aujourd'hui devenu ce que je suis, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu un instant de survie. Et que cet instinct de survie m'a toujours guidé à un tel point où rien n'est m'est arrivé, au fait. Donc, j'ai vu des personnes mourir, j'ai vu des enfants se faire massacrer. Et moi, j'ai suivi des groupes de personnes qui me demandaient de faire certaines choses dont je faisais. Mais sans rien penser, sans me dire que c'est beau ou moche ou méchant ou pas méchant, je faisais parce qu'on me demandait de le faire et qu'on me donnait suffisamment à manger, c'est tout.
Oui, c'est une question de survie, c'est une façon de se protéger soi aussi.
Oui, et puis après, si on regarde un peu à l'extérieur, on se dit, est-ce que c'était des mauvais actes ou c'était des bons actes ? Ça, je ne pouvais pas juger. J'avais très peu de recul pour pouvoir juger à cette époque.
Mais tu disais, par exemple, il fallait que tu dénonces ou que tu dises quand quelqu'un, des hommes attachés, bougeait. Mais pourquoi ces hommes étaient attachés ? Est-ce qu'on se pose la question ? Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Qui étaient ces hommes ? Ils étaient des Khmers, tout comme toi, tout comme tout le monde, en fait, était Khmer dans l'histoire.
En fait, je ne me posais pas de questions. Je faisais ce qu'on me demande de faire. Après, on peut revenir dessus. Oui, c'était des Khmers. Oui, bien sûr, tu peux ressentir de la pitié. Oui, tu peux ressentir tout ce que tu veux. C'est inhumain ce qui est arrivé. Mais est-ce que j'étais en position de comprendre ou est-ce que j'étais en position de savoir si ce qui était bon ou ce qui n'est pas bon ?
Bah, tu étais un enfant, donc à ce moment-là, en plus tu parles d'embrigadement, tu parles presque de lavage de cerveau, quoi, hein, d'endoctrinement.
Oui, c'est l'endoctrinement. Après coup, on comprend, hein. Mais sur le coup, tu sais, voilà, je sais pas comment tu... C'est comme ma gamine, elle a 4 ans aujourd'hui, c'est pas qu'elle n'est pas fut-fut, mais bon, elle a 4 ans, quoi. Donc, elle a besoin d'amour, elle a besoin de choses. Et imagine quelque chose qui arrive comme ça, quelle est ta réaction à toi si, tu vois, si t'es arrivé à un truc comme ça ? Je l'ai fait pour survivre. Voilà.
C'était quoi le quotidien ? Qu'est-ce que tu faisais ? On est en quelle année, là, quand tu me parles de ces hommes ? On ne sait plus.
Franchement, j'en ai strictement aucune idée. Alors, le lieu, du temps, là, je deviens complètement anachroniste. Là, je n'ai strictement, vraiment, vraiment aucune idée.
Parce qu'on a des copains, on joue avec les enfants de son âge autour de soi ? Parce qu'on est vraiment tout seul à écouter ce que nous disent les hommes, ce qu'on doit faire ?
Le copain, on n'a pas de copain, finalement, en fait. On peut se faire des connaissances, on peut discuter, mais on n'a pas tellement de copinage. On fait simplement ce que disaient les plus grands. C'était même pas les hommes, en fait. C'était les plus grands que nous. Et qui nous disaient, on va là, et puis on y va. On traînait le Kalachnikov, on traînait le grenade, le mine, etc. Et puis on allait, quoi. Donc je me souviens de la jungle, je me souviens des champs de riz, je me souviens des villes, oui. Mais où et quand et comment, ça, j'en ai strictement aucune idée. Je me souviens qu'on me disait je tirais, je me souviens qu'on me disait de poser des mines, je posais des mines, etc. Je dirais que c'était tellement bien conçu que c'est devenu après un jeu d'enfant pour nous, en fait. C'était si simple. C'est comme toi, où le Père Noël t'offre un Game Boy et puis en deux semaines tu sais manipuler le Game Boy alors que t'as jamais connu un Game Boy dans ta vie. Ben, moi, les mines, c'était pareil, tu vois, donc c'était... En deux semaines, j'ai manipulé les mines comme si j'avais manipulé depuis des années et des années, en fait. Donc, c'était devenu des terrains d'enfants, c'était devenu un jeu pour nous, en fait. Et plus on jouait à ce jeu, bah, plus on avait à manger, plus on avait de la considération, plus on avait de l'affection.
Et la part de qui ?
Bah, les plus grands. Voilà.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Surveille sur le monde.
Le chemin le plus court pour se découvrir soi.
Regarde ailleurs sur le chemin des différences.
En fait, tu es ce qu'on appelle un enfant soldat, quoi. Tu faisais partie de ces enfants qui étaient préparés à faire la guerre, mais la guerre contre qui ?
Est-ce que je me considère comme un enfant soldat ? Je ne sais pas ce que ça veut dire, enfant soldat.
Dans le sens où on t'a appris à manier des armes ?
Oui, mais est-ce que j'étais vraiment enfant de soldat ? Je ne sais pas. Ce mot est très intéressant pour moi. Mais quand on est soldat, c'est parce qu'on le veut.
Mais quand on est enfant et qu'on est soldat, on ne le veut pas. On est enfant avant voilà. D'être soldat.
Donc est-ce qu'on est vraiment soldat ?
Enfant, oui. Oui, je ne sais pas. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. J'en sais rien. Mais c'est vrai qu'on est manipulé en tout cas,
bien sûr,
et on demande de faire des choses horribles à des enfants qui n'ont pas cette conscience du bien ou du mal encore, comme tu le disais tout à l'heure.
Mmh. Bien sûr. Oui, effectivement.
Et contre qui à ce moment-là ? Parce que je sais pas, hein, j'apprends en même temps, je découvre, hein, moi je connais très peu, j'ai dû lire un ou deux bouquins en arrivant ici au Cambodge la première fois. D'accord. Dans les rues de Siem Reap, on a des gens qui viennent hein, voir les touristes avec des livres écrits donc, plus tard, après le génocide, et c'est comme ça que j'ai appris ce qui s'était passé au Cambodge. Plus tard, je suis revenu, j'ai visité Phnom Penh, et là, de Phnom Penh, il y a ce camp, le camp de la mort, le S21, je crois, hein, c'est ça, et le Killing Field. Et petit à petit, à force de revenir au Cambodge, ici, on découvre ce qui s'est passé ici entre 75 et 79. Mais tu dis que c'est déjà bien avant,
80,
et 80, ça a duré après. Là, l'époque où tu me parles de poser des mines, c'était pendant cette époque-là ou c'était après, dans la guerre civile ?
Non, c'était pendant cette époque, en fait, 75-80, après, mais même après, en fait, les Khmer Rouges sont partis en 93, hein. Et pour te dire la vérité, je suis venu ici deux semaines en 93, hein. D'ailleurs, j'ai une très belle histoire à te raconter, cette histoire-là. Si tu veux, après, je te raconte.
Bah, raconte-la-moi, cette histoire-là, mais tu me perds dans les chiffres et dans les dates.
En fait, les derniers Khmer Rouges sont partis, enfin les derniers Khmer Rouges, on ne va pas dire derniers, mais normalement à la fin des Khmer Rouges sont terminés officiellement en 1993 avec Lone Tak. Il y a eu une opération ici avec Lone Tak qui s'est produite pour chasser les derniers Khmer Rouges et pour réintégrer un nouveau gouvernement ici. Et ça s'est passé en 1993. Mais en 1996, je suis revenu ici pendant deux semaines.
En 1993 ?
En 1993, oui. Pour une mission assez spéciale. Au fait, si tu veux... Quand je suis parti en 88...
Là, tu es parti en France, hein, je resitue. Voilà. En 88, tes parents adoptifs t'emmènent en France. Mais tu reviens en 93, donc quelques années plus tard.
Voilà, je reviens en 93. Pourquoi ? Parce que, justement, à l'année, début de l'année 93, je me suis engagé dans l'armée française. Donc, je me suis engagé dans la Légion étrangère. Et pendant mes classes, il y avait l'opération pour venir en Cambodge. Et comme j'étais cambodgien et que je parlais le cambodgien... On m'a demandé de venir en tant que traducteur. Et donc, je suis revenu ici. Et la petite histoire que je voulais te raconter, c'est qu'en 1988, j'ai débarqué en France. Donc, de 1988 à 1993, j'étais devenu français, en fait. C'est bizarre, mais j'avais changé. J'étais devenu quelqu'un d'autre. Donc, j'avais à peu près oublié tout ce que j'ai fait, tout ce qui s'est passé dans mon pays. En fait, je pense que c'est une volonté d'oublier. Et j'ai commencé à haïr mon pays. parce qu'en lisant des bouquins, en comprenant, parce que là j'arrivais à comprendre, en comprenant, je commençais à ne pas aimer ce pays au fait, et à détester, et à un point où où vraiment je ne veux plus du tout revenir au Cambodge, si tu veux. Et donc quand je me suis engagé en 1913, il y avait l'opération Donta qui est venue ici pour chasser les derniers Khmer Rouges. Et donc j'ai été missionné pendant 2 semaines seulement pour venir au Cambodge pour être un traducteur. Et là je viens, j'arrive en Cambodge, je ne reconnaissais plus rien évidemment. Et je viens justement dans la région de Siem Reap. Là où c'est vraiment intéressant, la petite histoire, c'est que je m'étais affecté à une compagnie de déminage en fait. Un certain lieutenant, que je ne donnerai pas de nom, m'a dit, écoute, tu viens dans la section, et puis après, on va créer les zones de déminage, etc. Donc apparemment, tu t'y connais un peu aussi, on va voir comment on va faire au niveau du déminage. Donc c'était là la zone, on s'est retrouvé dans la zone de Srasran, c'est dans les temples encore. Et devine les premières mines que j'ai déminées.
Les tiennes?
C'était mes propres mines. En fait, je ne me souvenais plus. Quand je posais une mine à l'époque, je mettais toujours un bracelet, tu sais, comme les Khmer, ils ont... un bracelet rouge, et j'attachais ça sur les détonateurs, etc. Et priant le bon Dieu, le bon ciel, pour que personne ne tombe vraiment dessus, en fait. Mais j'avais complètement oublié où je les ai posés, quand je les ai posés, etc. J'étais devenu français, je rentre dans les régions étrangères, j'étais recadré, etc., etc. Et arrivé à Sasseron, les premières mines que j'ai déminées, c'était ma propre mine, parce que je reconnaissais ma signature.
Donc des années plus tard, quoi, tu reviens au Cambodge et tu redécouvres ton pays et tu redécouvres ces mines que tu avais toi-même posées. Tu t'es retrouvé des années plus tard à déminer.
Voilà, c'est ça. Et là, j'ai commencé vraiment à détester mon pays.
C'est pas ton pays, c'est des hommes qui ont fait ça. Ça n'a rien à voir avec la culture khmer qui est très riche.
Oui, mais...
Et là, c'est avec les Français donc. Hein. C'est l'armée française qui a été chargée du déminage ici au Cambodge.
Une section qui était chargée du déminage. De la Légion étrangère.
Donc là, tu reviens sur Siem Reap pour la première fois au Cambodge, donc pendant seulement 2 semaines hein, comme interprète, plus comme démineur apparemment. Et donc 2 semaines se passent, et ensuite...
Après, je repars et je ne suis plus jamais revenu.
Pourtant, je te rencontre à Siem Reap aujourd'hui.
Ouais, c'est encore une longue histoire. Et je suis revenu qu'en 2006. Je suis revenu dans mon pays en 2006. En fait, j'étais dans la Légion étrangère, je suis resté 5 ans. Donc, comme je t'ai dit, j'étais à Nîmes et à Calvi. Donc j'ai participé à des opérations, tu peux imaginer, que tu as été au Rwanda toi aussi. Donc j'étais aussi au Rwanda avec l'opération turquoise, Sarajevo. J'étais sniper à l'époque, expert en explosifs. Donc tu peux imaginer les missions que j'ai faites à cette époque, de 93 à 98. Et puis les débuts du conflit, etc., etc. Après la Légion, j'ai essayé de reprendre les études. Mais ça n'a pas très bien marché, au fait. Donc j'ai un peu travaillé aussi. J'ai fait une petite formation pour être prof de sport, enfin prof de fitness, si tu veux. Donc j'ai un peu travaillé avec les Club Med, l'école Bouvard et compagnie. Je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Et donc après, j'ai commencé à voyager, voilà. Et comme toi, j'ai pris mon sac à dos et j'ai commencé vraiment à voyager. Donc plus l'Afrique, j'ai traversé Madagascar jusqu'au Maroc avec Land Rover, puis en Amérique du Sud, mais jamais le Cambodge. C'était vraiment la hantise pour moi. C'était un pays où je ne pouvais pas revenir.
Mais quand on te demandait de quelle nationalité tu étais, donc tu étais français. Enfin, tu es français avant d'être cambodgien.
Bien sûr, j'étais français avant d'être cambodgien, ça c'est clair.
Je repense à tes parents français, donc. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment ils ont réagi quand ils t'ont vu t'engager dans l'armée tout en connaissant ton passé, ton histoire? Ça a dû leur faire drôle, se dire, mais attends, notre fils, va dans l'armée.
En fait, je pense que c'était très dur au début, hein. Pour ne pas te cacher, j'étais le singe de la famille. Faut comprendre le contexte aussi, c'est les Versaillais, Rive Gauche, Porchefontaine et compagnie, donc qui m'ont adopté. Et donc je me suis retrouvé dans une classe un peu plus ou moins bourgeoise de Paris, si tu veux, et donc très catholique, voilà. Donc j'étais éduqué comme ça, si tu veux. Et c'était très très dur au début. Mes parents ont perdu pas mal d'amis à cause de moi, tu vois. Donc,
à cause de toi?
Oui, parce que j'étais le singe de la maison, je me tenais pas à table, je bouffais tous les canards du lac, je pêchais tous les poissons, j'ai chassé toutes les biches de la forêt, enfin le machin, voilà. Et j'ai vu un film qui s'appelait un Indien dans la ville ou un truc comme ça, c'est ça? Ouais, bah voilà, j'étais ce genre de personnage, si tu veux. Et donc j'étais pas intégré directement, et eux voulaient me... Je voulais vraiment me donner une éducation à la cato, etc. Ça n'a pas fonctionné, au fait. Et ils ont eu cette intelligence de me laisser faire, en fait. De me donner ma liberté, de ne pas essayer de m'endoctriner. Ils ont accepté très gentiment, en fait, que je m'engage, au fait. Et après, je me suis aperçu, après m'en engagé, je me suis aperçu que grand-père était ancien légionnaire, voilà, la famille était plus ou moins militaire, saint-cérien et compagnie. Donc, tu vois, donc je pense qu'ils étaient assez contents que je sois dans la Légion.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
L'émission radio pour se découvrir soi.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
On a commencé à parler de ton enfance ici au Cambodge. Tes parents sont pris par le régime, on parlait de l'encart, on parlait des Khmers rouges. On n'a pas dit qui étaient les Khmers rouges. Qu'est-ce que c'est qu'un Khmer rouge?
Un Khmer rouge, c'est un Khmer. C'est Khmer qui veut dire cambodgien. Rouge qui veut dire communiste. Aujourd'hui, si une personne te dit qu'il n'a jamais été Khmer rouge, je pense que ce n'est pas la vérité. À un moment donné dans notre vie, Khmer, nous avons été Khmer Rouge une fois au moins dans notre vie. Parce que nous avons suivi une idéologie, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, mais nous l'avons suivi. Personne ne s'est révolté. Personne n'a pris les armes. Personne n'a protesté. Nous avons simplement suivi cette idéologie. Moi, enfant, j'ai suivi cette idéologie. D'accord? Et adulte, quelqu'un, à un moment donné, a plus ou moins dénoncé quelqu'un pour se sauver la peau.
Mais tu dénonces pourquoi, si tout le monde devient Khmer Rouge, tout le monde fait partie de du même clan? Contre qui tu te bats? Contre qui tu poses des mines?
Enfin,
je suis désolé, hein, j'essaie
de comprendre. Bien sûr. L'ennemi public, l'ennemi des Khmer Rouges, c'est les Vietnamiens. C'est la hantise des Khmer Rouges, c'est les Vietnamiens, en fait. Et donc, on se battait contre les Vietnamiens, normalement. Mais moi, étant jeune, je ne savais pas avec qui je me battais. Hein. Mais normalement, on devait se battre contre les Vietnamiens. Et pourquoi on devait dénoncer? Parce que il y a une sorte de Gestapo quand même qui s'est créé avec les Khmer Rouges. C'est que cette Gestapo recherche toujours des traîtres, recherche toujours les intellectuels, parce qu'il est dit que c'est mieux de gouverner un pays d'ignorants qu'un pays d'intellectuels. Donc il recherchait toujours des traîtres. Et donc il fallait toujours dénoncer.
Donc les traîtres, ce sont les opposants potentiels au régime,
voilà.
En fait.
Ce sont les opposants potentiels au régime, etc. Mais qui étaient dans les villages, qui étaient exportés dans les villages, et qui travaillaient le champ, le riz, etc.
Mais donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de rebelles, de rébellion, qu'il n'y a pas eu de gens qui sont opposés à ce régime, parce que tu t'es tout de suite considéré comme un traître et donc tué, donc tu avais tout intérêt à te taire.
Oui, c'est ça. Mais si tu ne te tais pas, tu meurs. Voilà. Et après, ils recherchaient des anciens du gouvernement, des anciens militaires, des anciens professeurs, des anciens médecins, tu vois. Parce que tu étais intellectuel. Quand tu parlais français, par exemple, tu étais le premier à être tué. Quand tu parlais une langue étrangère, tu étais considéré comme un intellectuel. Même quand tu portais des lunettes, tu étais considéré comme un intellectuel. Donc tu étais le premier à être exécuté.
Mais pourtant, un régime a besoin de compétences, a besoin de médecins, a besoin de gens qui savent, non?
Ça, j'en ai strictement aucune idée.
« Regarde ailleurs, l'émission radio sur le chemin des découvertes.